France Culture, 13h31. Tout de suite, l'heure pour vous de retrouver Antoine Mercier pour le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après leur large victoire au premier tour des territoriales en Corse, les nationalistes demandent l'ouverture d'un dialogue avec Paris, analyse dans un instant avec Benoît Bouscarel. Theresa May à Bruxelles pour tenter de finaliser cet accord de principe sur les modalités du Brexit. Des progrès suffisants dans ces négociations, c'est la condition posée par les 27 pour ouvrir la seconde phase des discussions, notamment sur les traités d'échange. Précision avec Pierre Benazet à Bruxelles. Une partie des responsables catalans maintenus en prison. Ce matin, un juge d'instruction espagnol décide finalement de ne pas libérer notamment le vice-président destitué en raison d'un risque, dit-il, de récidive. Commentaire sur cette décision avec Marie-Pierre Véraud. Un avertissement, les avertissements se multiplient avant la décision américaine de donner ou non un feu vert au déménagement de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. On en parle avec notre correspondant Étienne Monin. Et puis après l'incident du week-end à la gare Montparnasse, la ministre des Transports demande au PDG de SNCF Réseau de lui présenter d'ici la fin de la semaine une nouvelle organisation, un nouveau management de la gestion des grands travaux. Retour sur cette panne avec François-Pierre Noël dans cette édition. L'invité de la séquence interview, Cécile Briec, psychologue du travail, à l'occasion d'une journée d'action en défense des CHSCT. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesper.
Les chiffonniers de Paris, pourquoi repenser le 19e siècle à l'aune de ces glaneurs de tissus, un morceau de poésie avec eux et avec notre invité, le professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, qui sera déjà dans votre journal et à retrouver plus en longueur à 12h55 dans la deuxième partie de la grande table.
Les nationalistes sont donc en passe d'emporter une large majorité en Corse. La coalition de Gilles Simeoni, de Jean-Guy Talamoni, est arrivée largement en tête au premier tour de ces territoriales. Plus de 45% des voix et les deux leaders nationalistes parlent de véritables lames de fond, de raz-de-marée démocratique. Ils demandent maintenant à Paris, je cite, d'ouvrir des discussions avec les responsables élus de la Corse. Jean-Guy Talamoni, ce matin, invité de France Inter.
Je crois que à un moment donné, il faudra bien prendre en compte la volonté des Corses, parce que ils ont dit un certain nombre de choses de manière claire par leur vote. Ils ont voté trois fois de suite pour des nationalistes. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que les Corses, sauf à ne pas connaître le sens des mots, les Corses considèrent que la Corse est une nation. Sinon, on ne vote pas nationaliste. Il faut à un moment donné ouvrir des discussions. Je précise d'ailleurs que certaines de nos orientations ont pénétré la société corse à un point tel que même nos adversaires sont obligés de les intégrer à leur programme. Par exemple, la mandature qui a précédé notre prise de responsabilité a validé de manière majoritaire à l'Assemblée de Corse, et très majoritaire, la co-officialité de la langue corse avec le français, d'une part, d'autre part, un statut de résident pour lutter contre la dépossession immobilière, et également l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés afin de tourner définitivement la page de 40 années de conflit. Tout ceci a été voté alors même que nous n'étions pas encore aux responsabilités. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, Paris devra ouvrir des discussions loyales avec les responsables élus de la Corse.
Discussion loyale, dit Jean-Guy Talamoni avec Léa Salamé ce matin sur France Inter. Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc, les nationalistes veulent discuter, alors de quoi précisément?
Il s'agit de passer de ce qui est considéré par les nationalistes comme une décentralisation légèrement améliorée à une véritable autonomie, rattraper la Catalogne en quelque sorte, qui, du point de vue nationaliste, a plusieurs trains d'avance. Au-delà des trois points qui viennent d'être évoqués, l'accord stratégique passé entre indépendantistes et autonomistes demande la dévolution progressive du pouvoir législatif et réglementaire de plein droit dans les domaines non régaliens. Ça recouvre une souveraineté fiscale, par exemple, avec le transfert de la totalité, de la TVA, des droits de succession, de la fiscalité sur les jeux, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Trois points de suspension, la liste dans ce texte n'est pas exhaustive. Ce statut d'autonomie pourrait être mis en œuvre en trois ans, sous réserve évidemment de ce que donneront les discussions avec le gouvernement, et appliqué ensuite en 10 ans, façon au passage pour les nationalistes de faire deux campagnes en une, puisque le mandat qui s'ouvre en janvier prochain ne sera que de 4 ans.
Dans quelle logique s'inscrit maintenant ce mouvement?
Alors, pour bien comprendre, il faut lire dans le détail cet accord stratégique entre autonomistes et indépendantistes, un texte qui s'inscrit clairement dans un contexte de sortie de conflit, parce que c'est bien dans la lignée des décennies de lutte, je cite, menées sur tous les terrains par des générations de femmes et d'hommes dont beaucoup ont connu la prison ou sont morts, que s'inscrit ce combat politique. Des militants, poursuit le texte, dont nous voulons être à la fois les héritiers et les continuateurs. C'est cette trajectoire historique parfaitement assumée, y compris par les autonomistes de Gilles Simeoni, qui permet aux vainqueurs du scrutin d'hier de réclamer, avant même le deuxième tour, hein, comme on vient de l'entendre, l'amnistie des prisonniers et des recherchés, ce qui inclut dans l'esprit de Jean-Guy Talamoni, Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 98. Les discussions loyales seront longues.
Voilà, encore faut-il qu'elle puisse s'ouvrir. Effectivement, oui. Pas de réponse pour l'instant du gouvernement. Merci beaucoup, Benoît Bouscarel. La première ministre britannique déjeune en ce moment avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Déjeuner de travail qui est censé finaliser un accord de principe sur les modalités du Brexit. Madame May va rencontrer ensuite le président du Conseil, Donald Tusk. Des progrès suffisants, dit-on à Bruxelles, dans ces négociations. C'est la condition posée par les 27 pour ouvrir la seconde phase des discussions qui inclura la relation future entre Londres et l'Union européenne, et en particulier la relation commerciale. Le règlement financier, en fait, de la séparation semble assez en bonne voie. On semble s'être mis d'accord sur une somme globale. Mais il y a aussi le sort, après le Brexit, des citoyens qui sont expatriés. Et puis, surtout peut-être, l'avenir de la frontière irlandaise qui a émergé ces dernières semaines comme la question la plus complexe. Pierre Ménazet, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles. Est-ce qu'on a des nouvelles de cet entretien de Madame May ce matin ?
Alors pour l'instant, il y a eu un premier entretien où elle n'était pas, c'était celui du Guy Verhofstadt, pardon, l'ancien Premier ministre belge, qui négocie le Brexit pour au titre du Parlement européen. Lui insiste surtout sur les droits des expatriés, qui sera aussi une pierre d'achoppement, même si Theresa May a laissé ouverte la porte pour une solution qui satisferait les Européens, à savoir que les tribunaux britanniques, à terme, tiennent compte de la jurisprudence de la Cour européenne de justice lors de leur règlement pour la garantie des droits des expatriés futurs après le Brexit, donc après le 29 mars 2019. L'autre question, vous l'avez évoquée à l'instant, qui posait le plus de problèmes, c'était celle du règlement financier. De somme globale, on n'en a pas encore définitive. On évoque la somme de 55 à 60 milliards d'euros. C'est surtout une méthode de calcul sur laquelle les Européens et les Britanniques se sont mis d'accord. Une méthode de calcul où on prendrait ligne par ligne chaque poste de dépense jusqu'au 29 mars 2019 et après pour les programmes à plus long terme, ce que les Britanniques semblent en passe d'accepter. Le principal problème semble rester aujourd'hui celui de la frontière irlandaise qui est censée rester ouverte, c'est que ce que tous veulent absolument maintenir, à savoir les acquis des accords du Vendredi Saint de 1998. Or, cette frontière irlandaise ne peut rester ouverte que dans le cadre d'une Irlande du Nord qui participerait encore au marché unique européen, ce que les unionistes d'Ulster ne veulent pas, et ce sont eux qui détiennent peut-être un peu la clé de ce problème, car ils permettent à Madame May d'avoir sa majorité très courte, sa majorité d'un siège. Une question donc pour laquelle on espère une résolution aujourd'hui, lors des propositions de Theresa May à Bruxelles.
Pierre Ménazet, en direct de Bruxelles. Merci beaucoup. Une partie des responsables catalans vont être maintenus en prison. C'est un juge d'instruction espagnol qui décide finalement de ne pas libérer, notamment le vice-président destitué Oriol Junqueras, et trois autres inculpés dans cette tentative de sécession de la Catalogne. Il y a six autres prévenus qui, en revanche, eux, seront libérés sous caution. Le juge invoque, pour ceux qui vont rester en prison, un risque de récidive. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Pourquoi cette différence de traitement ?
Il faut déjà noter que les quatre responsables qui restent en prison, ce sont les figures les plus en pointe de l'indépendantisme catalan. Les deux Jordi, bien sûr, ceux qui sont à la tête des deux associations indépendantistes qui ont massivement mobilisé la rue catalane à plusieurs reprises pour l'indépendance, puis pour demander la libération de ceux qu'elles considèrent comme des prisonniers politiques. Ce fut encore le cas ce week-end lors d'un concert de soutien. Il y a aussi l'ancien vice-président, Oriol Junqueras. Il dirige, lui, le parti de la gauche républicaine catalane, dont il défendra les couleurs lors des élections et auquel les sondages prédisent le plus gros score. Et enfin, l'ancien ministre de l'Intérieur catalan. Le juge n'a donc pas été convaincu par leurs déclarations, tous quatre. Pourtant, comme les six autres responsables qui ont été remis en liberté sous caution, tous quatre avaient pourtant promis de ne rien entreprendre qui ne soit légal. Mais le juge de la Cour suprême fait référence dans ses attendus au poids et à la capacité de mobilisation de ces quatre responsables et à divers rassemblements qu'ils avaient soutenus lors de l'organisation du référendum d'indépendance jugé illégal par Madrid. Leur influence, estime le magistrat, rend d'autant plus dangereuse une éventuelle récidive. Il distingue donc là le poids de ceux qu'il maintient en prison des autres. Ce n'est pas tant le risque de récidive en soi que les conséquences d'une récidive qu'il pointe. Elles seraient trop importantes dans leur cas, écrit-il en substance, évoquant des violences aux conséquences irréparables pour la communauté catalane. Le danger, estime le juge de la Cour suprême, ne disparaît pas parce que ces responsables affirment que leur comportement va changer. Le risque que nous encourons en cas de mensonge est trop important, ajoutant qu'il fait preuve là de rigueur et de prudence en conjuguant à la fois le droit à la liberté et le droit de la communauté catalane à une vie sereine.
Voilà ce qui s'est passé donc à Madrid et pendant ce temps à Bruxelles, eh bien Carles Puigdemont et quatre autres membres de l'exécutif catalan déchu retrouvent, eux, le juge qui est chargé de statuer sur les mandats d'arrêt européens qui sont émis à leur encontre, donc, par Madrid. Les élections vont avoir lieu dans moins de 3 semaines. La campagne officielle va même commencer demain. Et quel impact peut avoir le sort de ces dirigeants nationalistes sur les débats électoraux qui commencent, Marie-Pierre Véro?
On peut dire en partie d'abord qu'il s'agira d'une campagne virtuelle, puisque les deux anciennes têtes de l'exécutif catalan feront campagne loin des électeurs. L'un, Oriol Junqueras, nous venons d'en parler, à la tête de la liste gauche catalane républicaine depuis sa cellule à Madrid, et l'autre, Carles Puigdemont, qui mène la liste Ensemble pour la Catalogne depuis son exil bruxellois. Deux hommes qui étaient unis au pouvoir, mais avant, lors du précédent scrutin, qui avance donc cette fois-ci chacun leur pion, espérant être le prochain président de la Catalogne. Des indépendantistes désunis, donc, auxquels la justice espagnole vient peut-être d'offrir un argument de poids pour continuer à faire campagne sur le seul thème qui les rassemble, l'oppression de Madrid et la libération de leurs prisonniers politiques, comme ils les appellent.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Véro. Les avertissements se multiplient au Proche-Orient avant la décision américaine de donner ou non son feu vert au déménagement de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. La Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans, a mis en garde contre une démarche aux conséquences graves qui risque, selon elle, de torpiller les efforts de paix et entraîner la région vers l'escalade. Et peu avant, c'était au Caire le chef de la Ligue arabe qui affirmait à des journalistes que rien ne pouvait justifier une telle décision qui nourrira le fanatisme et la violence. Étienne Menin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de Jérusalem. Bon, il semble que l'on s'oriente vers une simple déclaration de la part des États-Unis, mais ça pourrait quand même aussi avoir de graves conséquences.
Oui, c'est un entre-deux à forte teneur déstabilisatrice. Alors pour l'instant, on est sur des fuites, mais elles semblent sérieuses. On rappelle aussi les épisodes précédents de cette saga de l'ambassade américaine. C'est une clinquante promesse de campagne. Elle parle à certains riches soutiens pro-israéliens de Donald Trump et à ses supporters évangélistes. Le déménagement est une mécanique administrative enclenchée par le Congrès. Ça date de 1995. C'est reporté depuis tous les 6 mois par tous les présidents américains. Le déménagement de l'ambassade reviendrait à reconnaître la souveraineté israélienne sur tout Jérusalem contre la position de la communauté internationale et palestinienne qui revendique Jérusalem-Est comme sa capitale. Dans ce mécano très sensible, Donald Trump pourrait donner des gages aux Israéliens en reconnaissant donc Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ce serait une façon de coller à sa promesse de campagne sans pour autant l'exécuter. Mais la température monte de jour en jour. Les Palestiniens ont fait savoir qu'une telle déclaration mettrait l'Amérique hors jeu dans son rôle d'arbitre et que ça rendrait les Américains au fait complices dans l'annexion illégale de Jérusalem-Est. Reste à savoir quel serait le périmètre de cette déclaration. Jérusalem a 3 composantes fondamentales. L'Ouest israélien, l'Est palestinien et le religieux. Le président américain pourrait chercher à mesurer l'impact pour éviter de balayer d'un coup le travail de l'équipe qu'il a lui-même nommée pour tenter de relancer d'ici quelques mois les discussions de paix.
Voilà, réunion effectivement et décision d'ici aujourd'hui ou peut-être mercredi. Merci beaucoup Étienne Monin. Au Yémen, le basculement apparent de l'ancien président Ali Abdallah Saleh vers l'Arabie Saoudite pourrait changer la donne et isoler en tout cas les rebelles houthis soutenus par l'Iran. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite demande aux civils dans la capitale yéménite Sanaa de s'éloigner des zones rebelles. Ça pourrait signifier une prochaine intensification des raids aériens sur la capitale contrôlée depuis plus de 3 ans maintenant par ces insurgés. On revient maintenant sur cet incident hier à la gare Montparnasse. Le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, reçu ce matin par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour des explications sur cette panne informatique géante qui a affecté le trafic de la gare Montparnasse. C'était hier soir pendant plusieurs heures. Patrick Jeantet rappelle que la panne a été détectée en 2 heures contre 3 jours au mois de juillet. Mais la ministre Elisabeth Borne réclame, elle, une nouvelle organisation, un nouveau management de la gestion des grands travaux et de l'ingénierie. On écoute d'abord Bernard Robin, secrétaire général du syndicat de cheminots First, qui explique selon lui les raisons de la panne.
Au départ, dans la gestion des installations, il y avait des postes d'aiguillage électromécanique, il y avait un périmètre relativement limité. Et avec la modernisation de ces postes, on est passé à l'informatique, on est passé à des périmètres beaucoup plus élargis, Et surtout, on a induit dans le fonctionnement de la SNCF quelque chose qui n'existait pas, qui existe chez vous sur votre ordinateur, mais qui n'existait pas en technologie ferroviaire, c'est le bug informatique. Alors maintenant, avec ces postes qui sont de périmètre extrêmement large, un simple bug d'ordinateur paralyse non plus la circulation comme par le passé sur un seul itinéraire ou sur une voie, mais sur tout un ensemble de voies. C'est ce qui est arrivé en été, déjà, à Montparnasse, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Donc ça pose une véritable question. L'informatisation, le progrès technique, c'est bien, mais à condition qu'il soit maîtrisé, et ce genre de situation démontre qu'il n'y a pas de maîtrise des pannes. Alors, à mon sens, c'est un problème de cahier des charges, parce qu'on a précipité les choses, on a été ébloui par les possibilités offertes par la technologie, par les ordinateurs, etc. On a supprimé énormément de postes et d'installations pour tout reporter sur l'informatique, mais le problème, c'est qu'on a oublié le fait que l'informatique, ben, ça buguait.
Bernard Robin, donc, c'était ce matin sur France Info. François Pierre Noël, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, alors est-ce qu'on connaît d'abord précisément la cause de ce bug informatique ?
Oui, c'est la mise à jour d'un nouveau logiciel de signalisation à la gare Montparnasse qui a bugué. Plus précisément, une ligne de code informatique qui n'a pas fonctionné. Ce nouveau système permet d'améliorer la fluidité du trafic de la gare, c'est-à-dire l'arrivée et les départs des trains. Ce changement de logiciel était prévu depuis l'ouverture de la LGV Sud Europe en juillet dernier. Il permet de traiter l'arrivée de 11 TGV par heure contre 9 actuellement. 15 minutes après sa mise en route dimanche midi, le logiciel a tout simplement planté et la SNCF a décidé de manière préventive d'arrêter les trains à la gare Montparnasse. Elle a réussi à trouver l'erreur et à la réparer en 3 heures, mais 30% des voyages ont quand même dû être annulés. Le trafic est redevenu normal ce matin, même si quelques trains ont encore été supprimés, ceux venant de La Rochelle notamment.
Alors, cause conjoncturelle ou peut-être systémique ?
Alors, selon la SNCF, il n'y a aucun lien entre l'incident qui a eu lieu au mois de juillet dernier, qui avait bloqué la gare Paris-Montparnasse en 3 jours, et celui d'hier. Pour Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF, cet incident est exceptionnel.
À la SNCF, on est quand même vraiment, vraiment en prise avec le principe de précaution. S'il y avait le moindre risque, on préférerait interrompre le trafic et fermer la gare plutôt que de continuer à le faire avec un dispositif défaillant, notamment en matière de signalisation. Donc oui, je vous assure que si le trafic est reparti normalement, c'est que le trafic était tout à fait normal et que le dispositif fonctionne bien.
Selon lui, le logiciel informatique est maintenant totalement opérationnel. Il sera à nouveau testé prochainement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de récidive.
François-Pierre Noël, merci beaucoup. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Antoine Compagnon. Bonjour.
Bonjour.
Pour les chiffonniers de Paris, dont on parlera dans la dernière partie. Bon, c'est au 19e siècle aussi que la SNCF, ou que le train plus précisément, a pris son départ et est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, on en arrive à une situation très moderne de gestion globale et qui amène à des pannes aussi globales. Quelle est votre réflexion ?
D'abord, lorsque j'étais petit, la gare Montparnasse, c'était une petite gare. Aujourd'hui, elle absorbe une grande partie du trafic. On va à Bordeaux, on va à Toulouse par Montparnasse.
Oui, c'est au service qu'à Maigri, oui.
Et donc, c'est la plus grande gare de Paris aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a ses pannes à répétition. Bon, on nous dit que ce n'est pas la même, mais c'est tout de même une panne informatique. Bon, on voudrait qu'il y ait des simulations et des logiciels de contrôle avant de basculer vers un nouveau logiciel. Et c'est curieux que cela se répète. Si le même genre d'incident avait lieu dans le trafic aérien, les conséquences seraient sans doute beaucoup plus graves.
Antoine Compagnon, on vous retrouve dans quelques minutes pour parler des chiffonniers de Paris dans la dernière partie de la Grande Table. Un collectif réunissant des syndicalistes, avocats, experts du monde du travail, baptisé Assemblée nationale pour les CHSCT, organise une journée sur la disparition annoncée de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la réforme du Code du travail. Et pour en parler, on est en ligne avec une ergonome, psychologue du travail, Cécile Briec. Bonjour.
Bonjour.
En direct de la Bourse du Travail où se tient cette réunion, ce collectif est réuni là-bas. Qu'est-ce que vous pensez qui va disparaître avec la disparition des CHSCT ?
Le risque, c'est qu'une instance où se débattaient et s'élaboraient collectivement des mesures de prévention, à partir d'une compréhension du travail réel des professionnels, s'amoindrisse.
Alors, Chouin, bonjour. Je voudrais juste quand même que vous précisiez un petit peu plus concrètement votre réponse. Qu'est-ce qui va nous manquer, par exemple, dans les entreprises, si ce CHSCT disparaît, dans une situation concrète, par exemple ?
Le risque, c'est que Le CHSCT est aujourd'hui une instance dans laquelle nous pouvions retrouver les représentants de la direction, les représentants du personnel, le médecin du travail, l'inspecteur du travail, etc. Donc une instance dans laquelle on pouvait discuter des situations concrètes de travail, et c'est à partir de là qu'on pouvait évaluer les risques et faire le lien entre organisation du travail et effet sur la santé au travail. Et évidemment efficacité, puisque de notre point de vue, il y a un rapport très dynamique entre les conditions de réalisation du travail et le fait qu'on soit en santé et qu'on puisse être productif, entre guillemets.
À vos côtés donc, Anne-Laure Choin, qui vous pose une question.
Voilà, alors ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce qui se joue dans les CHSCT, c'est cette notion de travail réel. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Qu'est-ce qu'elle recouvre, cette notion, et par opposition à quoi? Quel autre type de travail?
Donc le travail réel se distingue dans notre discipline, ou dans les disciplines qui s'intéressent au travail, du travail prescrit. Le travail prescrit, c'est celui qui est prévu, organisé, mis à plat sur le papier, mais on sait que dans la vraie vie, le travail est toujours plus compliqué et que ça suppose la mobilisation des salariés pour arriver à faire ce qui est à faire. Et c'est dans cette mobilisation-là que se jouent les questions de santé au travail et d'efficacité. Voilà, donc l'intérêt de cette instance CHSCT, c'était que pour sa aborder la question des risques professionnels, il fallait passer par ce grain d'analyse où on essaye de comprendre comment les salariés se mobilisent, font, et ce qui peut être un écart par rapport à ce qui était prévu.
Alors il y a un intérêt aussi pour certaines directions d'entreprise à ces CHS, c'était tous les employeurs ne souhaitent pas le voir disparaître. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'il gêne d'autres employeurs, ou qui peut gêner d'autres employeurs, ce CHS, c'était tel qu'il existait jusqu'à présent?
Alors, je pense que certains représentants de direction sont intéressés par cette instance, mais le souci qu'elle peut poser pour d'autres, c'est qu'elle constitue en quelque sorte une contrainte. C'est-à-dire qu'elle invite à penser des mesures de prévention collective et non pas des mesures de prévention individuelle. Et c'est bien plus confortable, si on veut prendre un exemple. Enfin, confortable, c'est peut-être pas le terme, mais c'est quand même un peu plus simple, par exemple, de prévoir des équipements individuels de prévention plutôt que de penser à des mesures collectives de prévention qui viennent interroger l'organisation du travail.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette réforme, l'argument qui vise à dire, la mise sur le même rang des enjeux économiques de l'entreprise et des enjeux de santé au travail? Et est-ce que finalement, ça n'a pas une certaine logique de mettre ces deux enjeux-là sur le même rang?
Alors, c'est une logique qui pourrait être intéressante, mais on pourrait aller plus loin en se demandant si finalement le CHSCT aurait pas pu être une ressource pour discuter des enjeux économiques, alors que là, en remettant sur le même plan enjeux économiques et enjeux de santé, on peut faire l'hypothèse que les enjeux de santé vont être perdants, puisque si on revient à l'histoire, la mise en place des CHSCT est le fruit justement de cette difficulté à donner une place dans une instance qui était unique, le fait qu'on puisse discuter des enjeux de santé et pas seulement des enjeux économiques. Donc le risque d'un retournement de ce qui s'est déjà produit dans l'histoire n'est pas loin.
Est-ce qu'on va peut-être redire un petit peu en quoi il va se transformer, ce CHSCT? Qu'est-ce que ça va être maintenant?
Donc le CHSCT va devenir une commission du CSE, le CSE étant la fusion du CEDP-CHSCT actuel. Donc ça va devenir une commission du CSE, commission qui va donc dépendre du CSE, alors que jusqu'à présent le CHSCT était indépendant en quelque sorte du CE et pouvait faire valoir ses propres prérogatives. Ça va aussi entraîner une diminution du nombre de représentants du personnel, puisqu'ils vont devoir se concentrer dans ce CSE ils feront partie éventuellement de la commission.
Peut-être. Donc moins de moyens, moins de mandats pour aller vite. Juste une dernière question, Antoine, oui. Si vous permettez. Qu'est-ce que ça dit de la vision du gouvernement, et notamment de la vision du travail et même du travail syndical, ce type de réforme?
C'est difficile à dire. On peut faire l'hypothèse qu'il y a quand même une idée qu'aujourd'hui les représentants du personnel ne représentent plus vraiment le personnel, et que c'est un peu une question en filigrane ou un point de vue en filigrane. On peut aussi faire l'hypothèse que ça va concentrer sur un faible nombre de représentants du personnel un certain nombre de prérogatives qui avant étaient prises en charge par plus de représentants du personnel, et que donc il y a un risque de professionnaliser encore plus ces représentants du personnel, et de les éloigner finalement du travail réel et des professionnels qui sont amenés à le faire.
Merci beaucoup. Merci Cécile Briac d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour nous parler de cette journée de défense des CHSCT. Merci à Anne-Laure Choin et à Raymond Albouy qui était également avec vous. La météo, des températures qui remontent légèrement, c'est la fin de l'épisode neige et verglas, en tout cas sur le Grand Est. Le soleil s'impose dans le midi cet après-midi, température de 2 à 13 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.